Bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lesquels nous commençons cette émission. Nous avons connu des problèmes avec nos lignes téléphoniques. La criminalité urbaine à Kinshasa et dans certaines grandes villes de la RDC est en hausse, suscitant des inquiétudes parmi la population. Plusieurs facteurs, selon certains experts, contribuent à cette situation. C'est notamment la détérioration de la situation socio-économique, le chômage des jeunes et le manque de sécurité dans certains quartiers. Les autorités ont lancé des opérations spéciales comme Ndobo pour tenter de lutter contre ce phénomène, mais le défi persiste. Que faut-il pour freiner efficacement la montée de la criminalité urbaine en RDC? Nous en parlons ce soir avec Michel Bissa. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste et bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Oscar Chamba, enseignant à l'école doctorale de criminologie de l'Université de Kinshasa. Monsieur Chamba, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste et bonsoir chers auditeurs de la radio Okapi.
Et Jonas Tchombela qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Tous nos efforts, je disais, tous nos efforts pour avoir dans cette émission le ministère de l'Intérieur sont restés vains. Dans la commune de Kisesu, ici à Kinshasa, vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La menace des Kuluna, ces gangs des jeunes délinquants urbains, persiste dans plusieurs villes de la RDC. À Lubumbashi, la société civile a sonné l'alarme face à la hausse de l'insécurité, un phénomène qui touche également de nombreuses communes de Kinshasa. Ce regard des violences s'observe après des opérations de grande envergure comme l'Ikofi, Zéro Kuluna et Ndobo, censées éradiquer ces groupes. Enoch Katumbi.
L'insécurité fait rage dans plusieurs grandes villes de la RDC. À Kinshasa, les communes de Nsele, Bumbu, Makala et Mongafula sont la cible de nombreux vols et braquages, une situation qui inquiète les autorités municipales. À Lubumbashi, la police a mis la main sur plusieurs criminels cette semaine. Ces malfaiteurs sont connus pour opérer avec des armes blanches pour voler, agresser et tuer. De son côté, Mbujimayi a été le théâtre d'un cambriolage dans une clinique universitaire. Des individus armés ont volé du matériel, notamment des téléphones et des ordinateurs, et ont blessé par balle un médecin stagiaire avant de prendre la fuite. Face à cette vague de criminalité, les autorités ont lancé diverses opérations comme Ndobo, l'Ikofi et Zéro Kuluna. Cependant, selon certains analystes, ces initiatives n'ont pas suffi à endiguer le fléau du banditisme urbain.
Merci Enoch Katumbi. Professeur Michel Bissa, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur, du point de vue sociologique, comment peut-on expliquer le phénomène de la criminalité urbaine en RDC?
Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question pertinente. Et il faut d'abord noter que le phénomène de la violence urbaine est un phénomène qui s'accompagne de mégalopoles partout dans le monde. Lorsque les villes augmentent et que l'État n'a pas pu mettre en place des politiques idoines pour la population, c'est tout à fait normal que des jeunes non encadrés, non suivis, surtout qui vivent dans une pauvreté à outrance et où il n'y a pas de mécanisme d'inclusion et de prise en charge des minorités vulnérables, que ces gens-là puissent retourner dans ce qu'on appelle l'état de la nature, où la violence règne et où les biceps s'expriment et où les armes blanches. Et pour les plus faibles, lorsqu'il s'agit des filles, non éduqués et qui n'ont pas d'autres issues, c'est de lancer dans la délinquance juvénile, dans la délinquance sexuelle, ainsi de suite. Et donc, sur les plans sociologiques, on peut comprendre que le phénomène de la violence reflète avant tout la défaillance des structures de socialisation. C'est l'État qui a failli, c'est la famille qui a failli, c'est l'Église qui a failli, ce sont les ONG et parfois ce sont des médias ou même l'université, les écoles de manière générale. Et ces enfants-là sont aussi des victimes. Ces jeunes délinquants, ces jeunes qui se lancent dans la violence, sont donc des victimes d'un système de socialisation qui n'a pas pu les prendre en charge. Mais aussi, madame, nous sommes dans une société qui connaît des guerres depuis plus de 30 ans. Ces enfants qui sont témoins de la violence à outrance des meurtres finissent à un moment donné à se venger sur la société. Mais au-delà de cela, mais maintenant nous avons une gouvernance, souvenez-vous, ici sur la radio Capi, il y a quelques mois, nous étions intervenus avec le cabinet du ministère de l'Intérieur pour discuter par rapport à l'opération Ndobo, l'ICOFI, Zéro Kulouna et même les programmes de mise en place des comités locaux de sécurité que le ministère de l'Intérieur avait imaginé. Je me souviens que le ministre de l'Intérieur avait organisé même un débat sur X espèces, j'avais suivi ça, pour discuter de sa réponse, ou au moins de la réponse étatique, par rapport au phénomène de violence urbaine. Mais aujourd'hui, ce phénomène de violence urbaine, non seulement qu'il a augmenté, mais il a migré. Nous avons maintenant de plus en plus de violences virtuelles sur le numérique. Vous avez suivi, il y a 2 semaines, Kinshasa vient de traverser des pratiques d'anarchie, notamment avec des messages attribués à des structures onusiennes, ainsi de suite. Donc, nous pouvons expliquer ça aussi par l'absence de mécanismes d'évaluation et de suivi, mais aussi par la faiblesse des moyens, des ressources budgétaires que l'État met en place au bénéfice du ministère de l'Intérieur pour endiguer ces phénomènes. Vous vous imaginez, madame, il n'y a pas longtemps, on a tué quelqu'un, un chauffeur non loin de l'échangeur de Limité, une caméra avait filmé, mais on n'a pas vu la police, par exemple, nous balancer des portraits robots du criminel qui était pourtant filmé. La même chose avec ce qui s'est passé sur le campus de Limitine à 3 reprises, la même chose avec ce qui s'est passé sur Rigini ou Ambinza. Il y a donc une certaine déconnexion entre les annonces politiques et la réalité du terrain. Les mesures ne peuvent pas être appliquées sur le terrain à cause du manque de moyens, à cause de faible coordination, faible dialogue société-université. Parce que vous savez, par exemple, que pour le cas de l'Université de Kinshasa, qui a connu plus de 4 cas d'arnaque, il y a eu tout un colloque organisé par l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa avec les moyens technologiques attendus, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas pu mettre en place des mécanismes pour se saisir de ces éléments. Alors, aux côtés des facteurs explicatifs, vous pouvez voir des facteurs qui aggravent l'insécurité, notamment à Kinshasa, où on peut parler aussi de l'est du pays, où hier je suivais Kamwenga et à Uvira, ce sont des Wazalendo incontrôlés qui se permettent de tuer, d'arrêter et pratiquement de créer une justice parallèle. Sociologiquement, il y a donc le facteur croissance démographique incontrôlée. Kinshasa est l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde, mais qui rend difficile la gestion de la sécurité parce que il n'y a pas de recensement de la population, il n'y a pas de contrôle de mouvement des populations, mais les comités locaux de coordination imaginés ne sont pas fonctionnels. Il y a le phénomène de l'urbanisation anarchique, avec des phénomènes de morcellement des parcelles. Les zones périphériques ou informelles sont délaissées par les services publics. Conséquence, qui contrôle les chantiers dans la ville de Kinshasa, qui contrôle des caniveaux, lorsque quelqu'un peut vous arracher un téléphone devant le stade des martyrs et qu'il plonge dans des caniveaux, il n'y a pas un mécanisme pour surveiller ces zones à risque. Il y a le phénomène du chômage massif, de la pauvreté urbaine. Le manque d'opportunités économiques alimente des formes particulières de délinquance, mais aussi des violences, notamment chez les jeunes et dans et tout. Et puis nous avons la faiblesse des services sociaux de base. Je l'ai dit ici, l'éducation, la santé mentale, l'encadrement communautaire sont quasiment absents.
Merci.
Conséquence, ça laisse place à des dynamiques de survie des violences, ainsi de suite.
Merci, professeur Michel Bissa, Jonas Tombela. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Quelles sont, selon vous, les principales lacunes dans l'approche actuelle du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité? On l'a dit ici, plusieurs opérations spéciales ont été lancées par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, mais des défis persistent. Quelles sont les principales lacunes selon vous?
Je pense que le gouvernement
Jonas Tombela, on a du mal à vous suivre. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Jonas Tombela.
On a des problèmes de connexion là. Moi, je vous entends.
Si vous avez activé le mode main libre, merci de le désactiver.
Non, je n'ai pas activé le mode main libre.
Allez-y, on vous écoute.
Dommage. Bon, je disais que le gouvernement semble se limiter non seulement à l'effet d'annonce et tout ce qu'ils peuvent annoncer autour des sacs de ce Kuluna, de ce bandit, de ce criminel, mais n'arrive pas à dégager les moyens réels pour quand même permettre à ceux qui sont appelés à combattre ces criminels à avoir le moyen. Moi, je suis victime de cette histoire. Il n'y a pas longtemps, mon école a été saccagée à côté.
On a un souci avec votre ligne téléphonique, Jonas Tombela. On va essayer de vous rappeler. La réalisation va essayer de vous rappeler. Professeur Oscar Chamba, vous êtes enseignant à l'école doctorale de criminologie de l'université de Kinshasa. La criminalité urbaine à Kinshasa et dans certaines grandes villes de la RDC est en hausse. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes parmi la population. Les autorités ont lancé des opérations pour essayer de freiner cette montée de la criminalité urbaine en RDC, mais malheureusement, on a l'impression que toutes ces opérations ne donnent pas les résultats qu'on attend. Quels sont, selon vous, professeur, les facteurs qui favorisent, les facteurs les plus significatifs qui favorisent ou qui expliquent la montée de la délinquance urbaine en RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que mon prédécesseur à essayer de donner quelques éléments ou quelques facteurs explicatifs de cette criminalité urbaine. Mais je suis un peu perplexe lorsqu'on aborde cette question, lorsqu'on parle de la criminalité urbaine, on se dit, mais de quoi parle-t-on? La criminalité urbaine, c'est quoi? Et des fois, on n'a même pas des chiffres exacts pour pouvoir évaluer cette montée ou cette recrudescence de la criminalité dans les différentes villes de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que je nie le phénomène. C'est un phénomène qui existe, mais qui n'est pas quantifié. Parce que lorsqu'il y a cambriolage, dans 2, 3, 4 cambriolages ou des faits, des infractions commises dans telle commune, on en fait large diffusion et ça crée un buzz. Et on s'empare de l'information, c'est de l'insécurité, c'est de la violence urbaine, et voilà. Donc, je suis un peu perplexe quant à ça. Ce n'est pas que je suis contre, donc je ne vois pas aussi ce que voient les autres, mais seulement la manière de présenter les choses pose problème. Lorsqu'on parle de la criminalité urbaine, il y a plusieurs infractions là-dessus. On peut parler du cambriolage, vol à main armée, assassinat, meurtre, et que sais-je encore. Mais si il faut quantifier commune par commune ces infractions, vous pouvez dire, mais il y en a combien par commune? Il y en a combien? Est-ce que nous avons les statistiques qui puissent vraiment nous donner une idée sur la montée ou l'augmentation de cette criminalité? C'est déjà un problème. Cependant, les quelques faits qui sont commis par-ci, par-là, qu'on ne peut pas peut-être banaliser, montrent bien qu'il y a un malaise sociétal. Et ce malaise consiste en quoi? La fois passée, quand vous m'avez posé la question, j'ai parlé de la faiblesse du contrôle social. Un faible contrôle social fait en sorte que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Qui contrôle qui et qui contrôle quoi aujourd'hui en RDC? C'est ça la grande question. Alors, le grand problème pour moi, on peut prendre tous ces facteurs, mais ces facteurs ne sont pas, donc ne jouent pas en même temps. Le facteur pauvreté, oui, mais est-ce que la pauvreté explique tout? Non. Le facteur démographie, mais est-ce que la démographie explique tout? Non. Il faut maintenant comprendre les processus des différentes infractions commises, parce que si on prend la criminalité dans son ensemble, je pense que c'est un faux débat. Il faut maintenant prendre, par exemple, le vol dans les différentes communes, et le modus operandi des voleurs. Alors, à partir des modus operandi des voleurs, on peut se dire, bon, voilà comment ils opèrent. En dépit des facteurs qui poussent les gens à opérer comme ça, mais comment ils opèrent? Et peut-être ils opèrent parce que il y a un problème urbanistique, parce que il y a tel problème, et commencer maintenant par guérir soigner, donc peut-être opérer sur les causes. Mais si nous partons de la criminalité, de l'insécurité, de la violence urbaine, on voit que ces concepts-là sont creux. Donc il n'y a pas de contenu. Il faut donner du contenu à ces concepts-là. Lorsqu'on parle de la criminalité urbaine, on voit par exemple le vol à main armée. Dans telle commune, il y a eu autant de vols à main armée. Que faut-il faire? Comment ils opèrent? La nuit ou le jour? Voilà un peu. Il faut trouver des moyens, des stratégies pour lutter contre ce phénomène. On peut passer le temps à raconter, voilà, il y a tel, on a volé par-ci, on a volé par-là, on a volé par-ci, on a braqué par-ci, par-là. Mais comment faire, que faire? Voilà, moi je suis dans les que faire. La fois passée, j'ai parlé de manque de statistiques. Chaque commune, on ne sait pas qui habite dans telle commune. Donc même sur l'avenir, les chefs de l'avenir ne maîtrisent pas son effectif.
Alors c'est
pourtant,
vrai, c'est vrai,
il faut que chaque individu contrôle, donc qu'il y ait un autocontrôle. Si nous nous contrôlons mutuellement, bon, je sais que tel habite sur telle avenue dans tel quartier, nous n'avons pas des registres nationaux, nous n'avons rien comme soubassement. Les bourgmestres, moi la fois passée je vous ai demandé si on pouvait commencer par une expérience pilote avec une commune. On va voir qui est sur telle avenue, qui est dans tel quartier, et le mouvement même de chacun.
sont contrôlés. Voilà. Donc, je vois qu'on peut parler des causes, des causes, des causes. Tout, donc, on peut passer le temps à parler des causes, des causes, des causes. Maintenant, il faut se poser la question, que faire? Et que faire, c'est-à-dire, commençons par une expérience pilote dans une des communes de Kinshasa ici. Moi, je peux dire, bon, vous me donnez 6 semaines dans une des communes. On va, donc, vous allez peut-être avoir des résultats.
Alors, on a échangé avec certains bourgmestres des communes de Kinshasa qui nous ont affirmé que la criminalité ou le vol, le banditisme urbain est en hausse dans leur commune. Voilà, et on a essayé de comparer la période hein, entre 2024 et 2025. Ils ont affirmé qu'en 2025, les taux ont explosé.
Mais les affirmations sur base de quels chiffres? Ils ont des chiffres. Ou c'est une façon de dire seulement des... C'est ça leur bilan, un bilan d'un bourgmestre. C'est de dire, de venir vous parler comme ça de manière verbale que non, voilà, la criminalité est en hausse chez moi. Les sociétés font quoi? Ils n'ont pas de moyens même pour enregistrer donc une plainte. C'est la victime qui doit payer pour qu'on dresse le PV, donc le procès verbal. Vous comprenez déjà dans quelles conditions nous nous retrouvons.
Alors, les autorités.
Donc, je pense bien que les bourgmestres feront mieux de nous présenter, sociate par sociate, les différentes infractions. Quand on va leur dire, bon, la criminalité est en hausse, qu'est-ce qui est en hausse là? Quel type d'infraction se commettent dans votre commune? Est-ce qu'ils sont capables de nous dire, bon voilà, il y a hausse des viols, hausse des vols, hausse des meurtres, de quelle criminalité parle-t-on? Donc nous pouvons les aider, nous ne voulons pas, nous n'allons pas nous substituer à leur place, mais nous pouvons les aider. Il faut aussi à un certain moment recourir à l'expertise. On n'a pas été formés seulement pour raconter des histoires, mais il y a quand même des gens qui sont formés et qui ont une expertise à la matière. Donc il faut peut-être, il faut être humble dans la vie, au lieu de parler sans chiffres, au lieu de faire des choses à la va-vite parce que c'est politique, je pense bien que on ne s'en sortira pas si on prend des décisions qui sont politiques. Il faut une expertise.
Alors, professeur Oscar Chamba, le gouvernement a lancé plusieurs opérations de lutte contre le banditisme urbain. Opérations comme Zéro Kuluna, comme Ndobo. Est-ce que ces opérations peuvent être des solutions durables ou elles ne sont que des réponses temporaires qui déplacent le problème,
hein? Franchement, je peux vous avouer que ces opérations, je voyais déjà l'échec de ces opérations-là, parce que les animateurs, ceux qui ont commencé ces projets pour la plupart, peut-être que le ministre de l'Intérieur avait une autre vision, mais c'était dit sensationnel. On voulait donc à un certain moment, nous savons ce qui s'est passé. Il dit bon voilà, les coulons avancent, seront donc punis à mort. Nous allons faire ça. Cette menace là est révolue pour le moment. On n'a pas à intimider la population parce que les causes sont profondes. Les causes sont profondes. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans les embouteillages. Vous allez incriminer qui dans les embouteillages? Parce que les premiers délinquants de la route sont peut-être certaines autorités. Vous allez incriminer qui? Donc, je pense bien qu'il faut ces opérations. Elles sont les bienvenues, mais il faut les repenser. Comment? En amont et en aval. Parce que il faut commencer par le commencement. Il faut, la lutte, c'est en amont, en aval. La justice pénale n'est pas la seule, n'est pas le seul instrument pour mettre fin à cette situation. Il n'y a pas que la justice pénale. Le pénal en soi n'est pas du tout efficace pour pouvoir mettre fin à cette situation ici. Il faut mobiliser, il faut une analyse holistique de la situation. Donc ce n'est pas seulement la menace de la sanction qui peut effrayer ou qui peut dissuader les gens. Il faut travailler sur les causes profondes. Le professeur a rappelé, a donné une criée des causes. Il faut travailler là-bas.
que de faire, de menacer seulement, nous allons vous envoyer tel, nous allons vous tuer, nous allons faire ça. Cette menace est inefficace. Et elle a ses limites aujourd'hui.
Merci, professeur Chamba. Jonas Tombela, est-ce que vous nous suivez? Je crois que on l'a perdu. On va tenter de le rappeler. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à fils Kisoka qui nous suit depuis Golfe Caravia dans le Haut-Katanga. Pacifico Tchoudi depuis Kinshasa pense que la criminalité vient souvent par manque d'emploi et le manque d'une politique d'encadrement des chômeurs par l'État congolais. Dieudonné Mbama, ventre affamé, n'a point d'oreille, dit-on. La montée inquiétante de la criminalité en RDC est le reflet d'un profond malaise social. Pauvreté, chômage, abandon des jeunes, incivisme, mais aussi la présence des criminels en veste qui détournent les ressources de l'État en toute impunité. Voilà, vous êtes très nombreux. Valérie Akisembe, la montée de la criminalité dans certaines villes de la RDC est due au manque d'équipement de nos services de sécurité, manque d'emploi des jeunes ainsi que les politiciens qui les utilisent à des fins politiques. À mon avis, les autorités doivent réformer notre système de sécurité. Professeur Michel Bissa, vous êtes en ligne?
Oui, bien sûr, madame, je suis bien là.
Alors, en tant qu'enseignant, vous avez sûrement, vous vous penchez sur cette question, professeur Bissa. Y a-t-il des modèles réussis, par exemple, dans d'autres pays confrontés aux mêmes défis socio-économiques que la RDC, que la RDC pourrait adapter pour s'attaquer à ce problème?
Oui, madame la journaliste, hein, je voudrais d'abord rassurer les professeurs que la question des données, ça dépend de la nature des données. D'abord, au niveau des données ouvertes, l'université au Congo, notamment l'école de criminologie dans laquelle lui et moi enseignons, les profs Raoul Kengetienge, Sarah Livera ont réalisé énormément des études, particulièrement sur la forme de Kulula. Et aujourd'hui, cette école de criminologie accompagne le ministère de l'Intérieur. Je sais qu'il y a un contrat pour la mise en place des comités locaux de sécurité. Et cette politique, c'est quelque chose qui a été réfléchi. En sciences sociales, on a aussi des enseignants-chercheurs, hein, notamment l'équipe de Guy Aoundou, qui a fait vraiment une étude avec des données intéressantes. À Lubumbashi aussi, l'école de criminologie avec Idéfense Chinyama ont fait beaucoup d'études. Au niveau des données fermées, en tout cas pour tous ceux qui mènent des études auprès des services spéciaux de la police, de l'ANR, de la DEMIAP, savent qu'il existe des bases de données des criminels et de la criminalistique, c'est-à-dire des outils de crime, mais qui ne sont pas des données ouvertes. Évidemment, je l'ai dit, si le Congo n'ayant pas fait des recensements de la population, nous avons encore des soucis de données, mais en tout cas, les faits montrent que le Congo est parmi, la ville de Kinshasa est parmi les villes les plus violentes au niveau de l'Afrique. Et la particularité en 2025, c'est que nous avons la mutation de la nature de la criminalité. Aujourd'hui, nous avons d'abord la montée des gangs urbains, les Kulula, des vols armés armés. Et pour pouvoir aborder cette question de la criminalité opportuniste à des formes plus structurées, organisées, parfois même instrumentales, on n'a pas besoin d'être fermé. C'est chaque jour, vous pouvez vous réveiller dans un site universitaire, il y a 3 braquages, à Bandale, ainsi de suite, ça se voit. On a la criminalité de plus en plus violente parce que on pouvait avoir des formes de criminalité sans nécessairement recourir aux armes blanches. Aujourd'hui, on a des armes à feu, parfois même des vols mineurs, ce qui augmente la gravité des délits. Et puis, on a aussi l'apparition de nouvelles formes de criminalité. Je venais de vous dire ici que la cybercriminalité, vous avez suivi que Kinshasa, pratiquement dans tous les groupes WhatsApp, ils ont reçu des messages soi-disant émanant des organismes onusiens
oui,
ou des
dit.
Banques internationales et qui ont fait que des téléphones des gens étaient piratés. Et puis, on a eu des trucs de criminalité financière, l'extorsion numérique, les escroqueries par mobile money, ainsi de suite. Tout cela montre que l'adaptation des criminels aux nouvelles technologies arrive et il fallait que nos autorités chargées de donner une réponse à cela s'adaptent également à cette évolution parce que les criminels sont intelligents, ils étudient et ils voient comment se mettre. Mais maintenant, madame, pour aller tout droit par rapport à votre question, les défis de la gouvernance sécuritaire aujourd'hui dans nos villes, nous avons d'abord un sérieux problème de manque de coordination entre les forces de l'ordre. Tous ceux qui mènent des études sur la question savent qu'il existe des rivalités entre la police, la garde républicaine, parfois les corps qui entraînent des sérieux problèmes opérationnels. Nous regrettons que les comités locaux de sécurité, qui devraient fonctionner comme des instances holistiques, globales, pour apporter une réponse située de proximité n'ont pas été mises en place. Mais on a aussi un défi en lien avec la corruption et l'impunité dans les forces de sécurité. L'insécurité est parfois entretenue par des agents eux-mêmes. Nous avons appelé ça la vampirisation de l'État lorsque les braconniers sont commis éco-gardes. Ce sont des criminels qui se cachent parfois dans des services de sécurité ou collaborent avec des groupes criminels pour pouvoir arriver. Nous avons aussi la faiblesse de la justice, la lenteur des procédures, l'absence d'enquête, des libérations arbitraires des suspects. Tout cela sape la confiance du public qui a donc de plus en plus peur de dénoncer un criminel parce que on va les libérer et il va revenir pour se venger.
Merci.
Et puis, les polices de proximité qu'on nous a placées dans les quartiers sont inefficaces. Mais la police a un sérieux problème d'effectifs. Souvenez-vous, madame, dans une émission ici, même à la radio Capi, un des conseillers du ministre de l'Intérieur s'était plaint du fait que les gros des effectifs était affecté à la sécurisation des hautes personnalités. Il faut qu'on regarde, on a quel effectif dans la ville et ces effectifs sont affectés où? La sécurité des hautes personnalités, de leurs infrastructures, de leurs maisons, occupe en tout cas plus de 40% des effectifs dans la ville.
Merci, professeur.
Conséquence, merci.
Alors, avant de vous redonner la parole, je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire, professeur Bissa. On va écouter d'abord ces auditeurs qui sont très nombreux à attendre sur les standards. Ils sont très nombreux en ligne, ces auditeurs qui veulent participer aussi à l'émission. On va aller à Bounia, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet auditeur.
Allons, Stépiens, mes vœux, je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. C'est choquant de voir la criminalité exploser dans nos villes, mettant ainsi à danger la sécurité des citoyens. Il est urgent d'agir pour remédier à cette situation catastrophique en améliorant les conditions de vie et en offrant des réelles perspectives d'emploi aux jeunes. La présence des forces et de l'ordre doit être renforcée dans les quartiers les plus touchés et des initiatives communautaires doivent être mises en œuvre pour restaurer la sécurité et la confiance. Les habitants ne peuvent plus vivre dans l'angoisse permanente. Il est crucial que les actions concrètes et déterminées soient prises pour stopper cette vague de violence insupportable.
Alors, après Bounia, on va se rendre à Kananga, dans la province du Kasaï central, pour écouter cet autre auditeur.
Hervé Kasonga, Kampashi, depuis Kananga, la ville de Kinshasa, cœur vibrant de la RDC, fait face à une montée préoccupante de la criminalité urbaine, telle que le banditisme et l'expansion des gangs appelés Kuluna, plongeant les citoyens dans un climat d'insécurité. Ces fléaux qui touchent autant les quartiers populaires que les zones périphériques représentent un défi majeur pour les autorités locales et nationales, ce qui impose une modernisation profonde pour répondre efficacement aux enjeux actuels. Et pour enrayer durablement la criminalité à Kinshasa, il est impératif d'adopter une approche innovante, intégrée et résolument tournée vers l'avenir. Cela implique la mise en œuvre d'un plan modernisé et articulé autour de la modernisation des forces de l'ordre en créant une cellule antiterroriste spécialisée dédiée à la lutte contre les phénomènes criminels complexes. Nonobstant toute tentative interventionniste, il faut des réformes judiciaires car une sécurité durable ne peut exister sans une justice équitable et accessible, instaurant des procédures judiciaires accélérées. Kinshasa ne se limite pas à ses communes urbaines. Les communes rurales, souvent négligées, sont parfois les terreaux de la criminalité qui se propage ensuite vers les centres urbains, d'où la lutte contre la criminalité doit commencer à la source.
Alors, professeur Oscar Chamba, lorsque vous écoutez, par exemple, ces auditeurs hein, qui font des propositions pour freiner la montée de la criminalité urbaine en RDC, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup. Je pense bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'on avance des propositions qui sont pertinentes à mon humble avis. Des propositions qui sont pertinentes, mais depuis toujours, ces propositions ne sont pas prises en considération. Le professeur venait de dire, voilà, il y a telle étude scientifique, telle recherche, mais est-ce que ces recherches-là sont prises en considération? Et parce qu'il y a quand même des propositions qui sont faites. Et depuis 2012, je pense bien, il y a les travaux de Sarah et Raoul Kengeking ne datent pas d'aujourd'hui. Tout ce que les auditeurs disent, c'est dans ces différents livres. Mais qu'avons-nous fait des résultats de ces recherches? Oui, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le ministre de tutelle, le ministre en charge de la sécurité. Mais concrètement, qu'est-ce que nous voulons? Moi, personnellement, je vous dis que je reste encore dubitatif pour la simple raison que du moment où nous ne contrôlons même pas les mouvements des populations, donc de la population, nous ne maîtrisons pas la police, nous n'avons pas la maîtrise de la police de proximité, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Parce que si chacun, prenons le cas des Massina, j'avais évoqué ça la fois passée. Sur chaque avenue, on sait, ils sont au nombre de combien? Des premiers numéros jusqu'au numéro X. On sait bien que tel habite, telle place, tel habite, telle famille, il y a 10 garçons, tel, et qui est le turbulent ou les gangs de cette famille-là. Et avenue par avenue, si on fait d'abord un quartier, on sait bien, on a la maîtrise, on contrôle au moins le quartier, on contrôle la commune. Je pense que cette expérience va réussir. Commençons juste par maîtriser les habitants de chaque avenue, chaque quartier, chaque commune. Nous allons réussir. Pourquoi nous allons réussir? Parce que il y a la population elle-même qui va aussi participer à la lutte contre cette criminalité-là par dénonciation, par d'autres mécanismes. Parce qu'il faut stimuler la population à pouvoir dénoncer les criminels. Mais il n'y a pas de mécanisme de stimulation. Il n'y a pas un contrôle efficace. Voilà un peu.
Donc, moi, je pense bien que toutes les recherches. Professeur, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il existe des initiatives communautaires ou des comités de sécurité locaux qui ont réussi à réduire la criminalité? Est-ce que vous avez des cas?
En tout cas, jusqu'à ma connaissance, non, je connais la seule expérience pilote, c'est celle de Kenge Kenge, avec quelques groupes de quelques jeunes Kuluna qui l'a sorti de cette délinquance par d'autres méthodes. Donc, ils sont pas passés par la police ou ni par la prison, mais juste par une autre approche, on les a sortis de la délinquance. Donc, il y a lieu de faire mieux. Et vous savez, la sécurité, ça coûte cher aussi. Peut-être l'État n'a pas le moyen de sa politique, mais il y a des moyens, donc des méthodes primaires pour pouvoir donc arriver à au même résultat avec peu de moyens.
Alors, quelles sont les recommandations concrètes que vous feriez aux autorités pour s'attaquer aux racines du problème plutôt qu'à
les autorités,
seules manifestations?
Que les autorités commencent déjà par mettre les résultats de toutes ces recherches-là en pratique. Parce qu'il y a déjà des résultats, il y a déjà des solutions. On a déjà proposé dans beaucoup d'ouvrages, il y a déjà des propositions. Présentement, moi je dis qu'on responsabilise les bourgmestres. Ils sont politiques, je sais pas, ils doivent commencer le recensement de leurs communes respectives. Connaître qui habite dans tel quartier, tel sur tel avenue, qu'on ait quand même ne serait-ce que les registres nationaux. Commençons par là.
Allez-y.
Gérer les mouvements, l'exode rural, gérer les mouvements de celui qui quitte Massina nuitamment, il est maintenant à Selemba où il commet un crime à Selemba où il quitte Selemba où il est à Lemba, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Alors moi je pense bien qu'il faut commencer par responsabiliser les bourgmestres. On peut travailler avec eux et dire, bon voilà, mettons les registres sur papier. Donc commençons, donnons quand même du pouvoir au chef du quartier, chef de l'avenue. Ils peuvent avoir l'idée sur qui vit dans leur quartier, qui vit sur leur avenue.
Merci professeur. On va prendre cet autre auditeur, ce dernier auditeur je veux dire, qui nous appelle, qui est à Kinshasa, voilà, auditeur de Kinshasa qui est en ligne, qui veut aussi donner son point de vue sur le sujet de ce soir.
J'ignore Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. Je crois que face à une police de proximité qui a transformé les sociétés en parking de véhicules et motos, rien d'étonnant à voir la criminalité urbaine exploser à Kinshasa et dans d'autres. Par ailleurs, la police congolaise a délaissé sa mission première, celle qui consiste de protéger les citoyens et leurs biens. Eh bien, vous allez constater que les jeunes aussi, sans emploi ni perspective, sont abandonnés dans des quartiers sans sécurité réelle. Par ailleurs, les opérations comme celle de Ndobo ne suffisent pas car la criminalité est nourrie par la pauvreté, l'injustice sociale et l'impunité. Alors, pour inverser la tendance, il faut de prime abord réhabiliter la police de proximité comme une force d'intervention et de médiation, pas comme un parking. Deuxièmement, il faut miser sur l'inclusion socio-économique des jeunes à travers l'emploi et la formation.
Professeur Michel Bissa, vous avez suivi cet auditeur de Kinshasa qui a fait ses propositions. Il vous rejoint un peu dans les propositions que vous avez données tout à l'heure par rapport à ce phénomène. Mais à votre avis, quelle est la réforme structurelle la plus importante que le gouvernement doit entreprendre pour s'attaquer aux causes profondes de cette criminalité grandissante en RDC?
Merci beaucoup, madame. Que je fasse un petit commentaire.
Essayez de vous résumer, professeur, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Justement, à le Kinshasa, les communes sont des entités territoriales décentralisées. Et les bourgmestres sont déjà des responsables, responsabilisés pour la sécurité dans leur juridiction. Aujourd'hui, nous avons plus un problème de moyens. L'État n'a pas mis en place suffisamment de ressources financières, matérielles et tout pour pouvoir accompagner la sécurité dans ses aspects visibles et invisibles. Et aujourd'hui, on a plusieurs cas. D'ailleurs, le cas Raoul est trop faible. On a le cas Service National avec le général Kasongo Kabwike qui fait des formidables choses. Mais il faut obligatoirement poursuivre la réforme sous une approche multidimensionnelle de la sécurité. La sécurité ne peut plus être pensée uniquement en termes de policiers ou militaires. Elle est articulée avec des politiques de développement urbain, d'éducation, de cohésion, de lutte contre la faim, de lutte contre les antivaleurs, non, inclusion économique. C'est pourquoi, madame, en termes, l'insécurité urbaine est un symptôme de déséquilibre socio-économique et institutionnel. Et nous pensons que les recommandations et les réformes doivent toucher six axes majeurs. D'abord, la socialisation. Il faut intégrer les familles, les églises, les partis politiques, les universités. Deux, il faut renforcer la gouvernance de la sécurité locale, c'est-à-dire la décentralisation, comme le prof le disait tout à l'heure, des fonctions impliquant les autorités locales, des familles et tout.
Troisièmement,
il faut réformer la police de proximité pour la rendre non seulement formée, redevable, mais aussi... Il ne faut pas que la police soit un endroit où les rejetés de la société sont. Il faut qu'on valorise la police pour qu'on y retraite des gens brillants, moralement dignes. Il faut l'intégration des jeunes à travers des programmes socio-économiques. Réduire leur vulnérabilité à l'enrôlement dans les activités criminelles. Et évidemment, nous sommes d'accord, il faut collecter et analyser des données fiables pour éclairer les décisions stratégique et ajuster la politique criminelle au quotidien parce que les criminels aussi sont intelligents et s'adaptent. Et enfin, il faut impliquer les communautés et renforcer les dialogues police-population. Cela permet de prévenir les violences, de désamorcer les tensions et de renforcer la confiance. Donc, madame, en grosso modo, je pense qu'il faut une politique ferme, une volonté politique, les moyens qu'on doit mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur, la réforme institutionnelle profonde, l'implication des activités des communautés et surtout les investissements publics.
Merci, professeur Michel Bissa. Professeur Oscar Chamba, en une minute, hein, votre conclusion.
Je pense bien que le professeur, je partage son point de vue, même si c'est un projet qui demande des milliards, mais nous devons commencer par les petites choses, c'est-à-dire que la gestion de nos communes, la gestion de nos avenues, la gestion de nos quartiers, et le ministre peut accompagner les bourgmestres dans la gestion quotidienne de leur commune, et puis voilà, je pense bien qu'on peut y arriver avec peu de moyens, parce que c'est tout un projet, la sécurité coûte cher. C'est des milliards. Donc, lorsqu'il faut mettre tout ça en pratique, on peut évaluer à plusieurs milliards ces projets-là. Mais on n'a pas le moyen de notre politique. Mais commençons par les petites choses. Mettons sur pied une police de proximité fiable. Mettre en relation la population qui doit être tout le temps, qui doit participer à sa propre sécurité.
Merci.
D'une manière ou d'une autre. Et créer un observatoire de la politique. De la sécurité.
Merci, professeur Oscar Chamba, d'avoir répondu, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Lievien Makende qui nous suit depuis Kolwezi, Merva TV, depuis Butembo au nord, Kivu, Crispin, Ilunga. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux à suivre cette émission. Je rappelle que tous nos efforts pour avoir le ministère de l'Intérieur dans cette émission sans rester vain, Jonas Tombela, que nous avons eu en début d'émission, nous l'avons perdu à cause des problèmes des connexions. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Alain Goy, Enoch Katumbi, Nelson Nyumbe, présentation, coordination Kéline Couté. Restez branchés sur Radio Capitale.